Tamani, voici nos informations en français.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres. 6 ans après la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, son application piétine toujours. La possible relecture envisagée par le chef du gouvernement pourrait être fatale à tous les acquis de la paix, rétorquent certains responsables des groupes signataires. Lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes massives. Une formation de 5 jours a démarré ce matin dans ce sens. Une quarantaine d'agents de la police nationale vont renforcer leurs capacités sur les techniques spéciales d'enquête lors de cette session. Le monde célèbre ce lundi 21 juin 2021 la fête de la musique. À cette occasion, l'Institut national des arts du Mali a partagé avec le public le savoir-faire de ses étudiants en musique. À la présentation, Hamsi Toutouri, à la mise en onde, Salim Djouara. Accord pour la paix et la réconciliation, 6 ans après sa signature, sa mise en œuvre connaît des difficultés. Le Premier ministre a annoncé que le document sera révisé de façon intelligente sans donner plus de détails. Toutefois, la CEMA et la plateforme signataire de cet accord ne semblent pas favorables à une relecture du texte. Les détails avec Fatih Attara.
Réviser l'accord pour la paix aujourd'hui serait synonyme d'aller au point mort. C'est ce qu'estime Hambala Aghamzata, membre de la plateforme. Selon lui, il faut plutôt poursuivre avec la mise en œuvre de l'accord, mais avec plus de mobilisation de toutes les parties. Hambala Aghamzata, membre de la plateforme.
Si on rentre dans cette réélection, ça veut dire qu'on va en réalité bloquer la mise en œuvre de l'accord. On va reprendre de nouvelles négociations et personne ne peut dire aujourd'hui là où ça doit nous amener cette réélection.
La coordination des mouvements de la Zawad CEMA, elle aussi pense que la réélection de l'accord pourrait être fatale aux acquis de la paix pour la paix. Attayag Mohamed, membre de la CEMA.
C'est pourquoi nous, notre premier appel aujourd'hui à la conférence qu'on a tenue à l'occasion du 6e anniversaire, c'est de dire aux gens, allez-y lire par vous-même, apprenez par vous-même pour savoir les contenus réels des engagements qui sont pris. Donc pour nous aujourd'hui, ouvrir de manière imprécise la brèche de la lecture ou de la révision de l'accord, c'est réouvrir de nouvelles négociations. Pour ça, il n'y a pas de problème, on va réouvrir les négociations. En tout cas, celui qui va l'engager l'ouverture va en prendre la responsabilité.
Nos tentatives pour faire réagir le gouvernement sur la question de la révision de l'accord sont restées vaines. Toutefois, le Premier ministre Chogelko Kalamaiga avait annoncé il y a quelques jours une relecture intelligente de l'accord parmi les priorités de son gouvernement.
Du côté des populations du Nord, certaines ne cachent pas leur insatisfaction du bilan de la mise en œuvre de l'accord qu'ils qualifient de compromis oublié et sans impact sur leur sécurité. Toutefois, d'autres reconnaissent que le bilan de l'application de l'accord n'est pas flatteur, mais ils estiment qu'il a permis de cesser le feu entre les parties signataires et de déclencher le processus de réconciliation et de stabilisation du pays. Écoutons leur réaction au micro de notre correspondant. Correspondante à Gao, Adizatou Mahamane Maïga.
Signer un accord pour un cessez-le-feu. Mais il n'y a rien eu tout le temps. Les gens sont victimes de tueries, de vols, de pillages et tout. Donc pour moi, ça n'a rien servi.
Grâce à l'accord de paix, les MOC ont été mis en place. Les premiers éléments du MOC ont été formés. En ce moment, ils sont à Meneka et à Kidal. Ils sont en train de faire ce qu'on appelle l'armée reconstituée.
Bientôt 6 ans d'un accord. On n'arrive pas à exécuter cet accord ou bien à mettre en œuvre cet accord. Avant de signer cet accord-là, il fallait rendre justice d'abord. L'accord-là n'a servi que les puissances internationales qui sont au Mali.
Cet accord est à la base de la refondation du Mali. Cet accord a créé la possibilité de démembrer certaines localités pour que les administrations soient encore très proches. Cet accord a permis aux différentes communautés de se retrouver.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Une attaque à la voiture piégée a visé les soldats de l'opération Barkhane ce lundi à Gossi au nord du pays. Selon des témoignages, la déflagration a fait plusieurs blessés dont des cas graves. Des hélicoptères dépêchés de Gao survolent actuellement la zone. Comme annoncé dans les titres, une quarantaine d'agents de la police nationale participent à une formation de 5 jours sur les techniques spéciales d'enquête depuis ce matin à Bamako. L'atelier est organisé par la cellule nationale de traitement des informations financières, CENTIF, en partenariat avec Think Peace. La session vise à lutter contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Les détails avec Aïssata Diarra.
Pour le lieutenant-colonel Mamadou Sangaré, chargé des enquêtes de police à la cellule nationale de traitement des informations financières, CENTIF, l'objectif visé est d'apprendre aux policiers des techniques leur permettant d'aboutir à des condamnations et des saisies.
Les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme du Mali a été évalué par les pairs en 2019 et à l'issue, certaines insuffisances ont été relevées. Pour la prise en compte de ces insuffisances, il y a lieu au niveau des forces de sécurité, de former les enquêteurs afin qu'ils puissent être outillés en mesure de tenir des enquêtes répondant à hauteur de souhait qui doivent aboutir à des condamnations, à des saisies et des confiscations.
Du côté des Think Peace, il s'agit de mettre un grand accent sur l'implication des communautés dans le blanchiment des capitaux. Abdul Kassim Fomba, coordinateur de l'organisation Think Peace.
L'idée aujourd'hui c'est d'expliquer qu'il y a un lien entre le blanchiment des capitaux et le financement des groupes terroristes. L'autre aspect, donc dans cette formation, il y aura bien entendu l'apprentissage de tous les mécanismes qui amènent à cela. Mais la touche particulière, c'est qu'on va parler un peu du rôle des communautés. Aujourd'hui, les communautés sont amenées malheureusement à financer ces groupes-là sans le savoir et des fois en étant conscience de cela.
Pour rappel, la CENTIF a pour mission le traitement et la transmission d'informations en vue de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Elle a été créée en 2006.
Sur un autre sujet, la saison des pluies reste pour le moment timide sur l'ensemble du territoire. C'est du moins le constat fait par les populations et les services météorologiques du pays. C'est pendant ces derniers rappels que des pluies diluviennes sont attendues cette année sur l'ensemble du pays, excepté certaines localités du nord. Issa Traoré, chef service agrométéorologie à Mali Météo, il est joint par Moudaï Soufi Maïga.
À la date du 10 juin déjà, dans certaines localités comme la région de Niouma du Sahel, la région de Nara, de Ségou et de Mofti, dans ces zones-là, vraiment, on est en train d'assister à une saison normale à un peu tardive. Même au niveau de la région de Mofti, Banyangala, Bankaskoro déjà, je crois qu'ils sont aussi dans la cadence des semis. Mais quand nous parlons de la précocité et de la normalité souvent, nous avons un tableau climatologique qui parle des dates de début de pluie, des dates de fin normale et des dates de début normale. Mais quand on regarde vraiment ce tableau-là, on voit que le démarrage de la saison des pluies au niveau de Bamako, c'est entre le 6 juin et le 20 juin. Et cette prévision saisonnière nous dit déjà que vraiment cette campagne serait une campagne humide.
Apporter un soutien humanitaire aux personnes démunies et aux veuves des militaires tombés sur le champ de l'honneur, c'est l'objectif de l'association Solidarité Femmes d'ici et d'ailleurs, dont le lancement officiel des activités aura lieu le 27 juin prochain. Selon ses responsables, ASFIA a soutenu plusieurs personnes en situation difficile, dont des veuves des militaires tombés au front. Fatoumata Mint Barka Amoudi, présidente de l'association Solidarité Femmes d'ici et d'ailleurs au micro de Imrana Kilumaïga et de Abdoulaye Kassé.
Cette année, par exemple, nos actions visaient à soutenir les femmes veuves de nos militaires tombées au front. Nous avons soutenu aussi les femmes policières. Nous aidons également les femmes rurales dans les activités génératrices de revenus. Nous avons offert à ces femmes des plateformes multifonctionnelles, des machines à coudre et bien d'autres matériels pour celles qui sont dans le besoin. Nous donnons des denrées alimentaires comme le riz, l'huile, le sucre, etc. L'objectif de ASFIA, c'est aussi pour inciter ceux qui ont un peu de moyens à suivre nos exemples, en apportant de l'aide à ceux qui sont dans le besoin.
L'Institut national des arts a abrité ce matin une manifestation à l'honneur de la Journée internationale de la musique. Cet événement reporté l'an dernier pour raison de Covid a été fêté ce matin dans un contexte pédagogique permettant aux étudiants en musique de montrer leur savoir-faire au grand public venu pour l'occasion, suivant le compte rendu de Mali Diawara.
L'Institut l'Institut national des arts a vibré ce matin au rythme des chants et des notes de musique de ses étudiants à l'occasion de cette journée de la musique. Selon les responsables de l'établissement, cette commémoration est la meilleure occasion pour mettre en contact les étudiants avec le public afin d'exprimer leur savoir-faire. Amadou Lougué, directeur général de l'Institut national des arts.
Pour ce 21 juin,
l'apport principal, c'est le contact avec le public. Quand on forme quelqu'un qui doit être sur scène, il faut le préparer à être en contact avec un grand nombre de personnes. La journée d'aujourd'hui, c'est une journée test pour eux.
De leur côté, les étudiants se sont dit satisfaits de la commémoration de cette journée de la musique. Moussa Kouyaté est étudiant en section musique.
C'est vraiment une chose très merveilleuse. Ce que nous venons de faire, c'est de montrer aux gens que la musique a beaucoup d'importance au Mali.
Cette journée est également l'occasion pour faire le point de la situation de la musique malienne et du contexte dans lequel les artistes maliens ont passé la crise sanitaire de Covid-19. Massambou Wele Diallo, professeur de chant de chorale à l'INA.
C'est ce problème de Covid là qui est en train de nous rendre la vie difficile. On avait tout arrêté. Des musiciens qui ne sont pas fonctionnaires, comment vivre de leur musique s'ils n'arrivent pas à faire des prestations? Sinon, la musique au Mali se porte à merveille. Aujourd'hui, là, les choses commencent à se normaliser. Les musiciens commencent maintenant à souffler.
À la fin de la cérémonie, les professeurs ont fait plusieurs recommandations aux étudiants afin qu'ils continuent à exceller dans la musique.
Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, de la République tchèque et par l'Union européenne.
Défour, à présent un tour en région. Des forains de Dinanguru qui quittaient la foire hebdomadaire du village de Yeremduru ont été attaqués ce dimanche 20 juin 2021 par des hommes armés non identifiés. Le bilan est de 6 morts et 5 blessés transportés par un hélicoptère de la MINUSMA à l'hôpital de Mopti, affirment des témoignages. Les mêmes sources expliquent que le village de Dinanguru reste toujours sous l'embargo des présumés groupes terroristes. Nous recevons à présent Mariam Koulibaly pour le Grand Dialogue. Bonsoir Mariam Koulibaly.
Bonsoir Amsetou Touré.
Quel est le thème du Grand Dialogue d'aujourd'hui?
Alors, le thème du Grand Dialogue d'aujourd'hui est 6 ans de l'accord pour la paix, qu'est-ce qui retarde sa mise en œuvre? Et pour cela, nous avons invité le professeur Oumar Kone, membre du comité de pilotage du front contre l'application de l'accord, monsieur Mamadou Diouara, chef de la mission d'appui à la réconciliation nationale, et monsieur Mohamed Ouldo Ramadan, membre de la CMA.
Merci Mariam et bon débat. Vous pouvez écouter toutes ces informations sur notre site web au www.studiotamani.org ou en appelant gratuitement sur la plateforme Viamo au 37 321. C'est la fin de ce journal, mais restez à l'écoute. Dans un instant, la question A. Plus de 150 000 réfugiés maliens vivent dans les pays voisins, mais ceux d'autres pays sont aussi au Mali selon le Haut Commissariat pour les réfugiés HCR. Le Mali accueille plus de 48 500 réfugiés. À ce jour, ceux-ci viennent, entre autres, de la Mauritanie, du Congo, du Togo et de la Syrie. C'est dans ce contexte que la Journée internationale des réfugiés a été célébrée ce dimanche 20 juin 2021 à Bamako. Selon le représentant adjoint du HCR, des dispositions ont été prises pour la réinsertion des réfugiés. Pierre Camara est le représentant adjoint du Haut Commissariat pour les réfugiés. Il répond aux questions de Fatih Attara.
La Journée mondiale des réfugiés permet de célébrer le courage de ces hommes et de ces femmes qui sont chassés, qui fuient une peur, qui fuient les causes qu'elles défendent ou bien parfois pour leur appartenance, pour ce qu'elles sont, et viennent trouver refuge. Pour montrer que les réfugiés, ce ne sont pas seulement des personnes qu'on doit assister, mais c'est des personnes qui peuvent contribuer au développement là où ils sont. Même au Mali, ici, nous avons des réfugiés qui sont dans l'entrepreneuriat.
D'accord. Alors, Monsieur Camara, est-ce qu'ici au Mali, il y a des réfugiés d'autres pays?
Absolument. Le Mali accueille généreusement aujourd'hui plus de 48 500 réfugiés qui viennent de plusieurs pays. Nous avons des réfugiés aujourd'hui qui viennent du Niger, c'est la plus grande population, à cause encore de la situation d'insécurité qui règne dans la zone de Tillaberi. Et là, ils sont 16 000 et plus, et même encore là, dans cette première partie du mois de mai, nous avons reçu également 3 000 additionnels. Nous avons les réfugiés qui nous viennent de la Mauritanie, qui sont là maintenant depuis 3 décennies. Et ceci sont au nombre de 15 000, mais qui se retrouvent dans la région de Kai, alors que les Nigériens sont dans les régions de Gao et de Menaka. Nous avons les réfugiés qui viennent du Burkina Faso, qui sont autour de 12 000, qui sont dans la région de Mopti, plus précisément Koro, dans certaines parties également de Tombouctou. Alors nous avons maintenant des réfugiés urbains, nous avons des réfugiés de plusieurs nationalités, qui nous viennent de la Centrafrique, du Congo, de la Côte d'Ivoire, et même du Togo. On a des réfugiés aussi, même qui viennent de la Syrie.
Alors, qu'est-ce que l'UNHCR fait pour faciliter l'intégration de ces réfugiés?
C'est beaucoup plus le gouvernement qui nous aide également à faciliter cela. Les réfugiés ont droit à toute activité. Donc, c'est un gage d'insertion. Les enfants vont à l'école, ils ont accès à la santé. Les réfugiés ici sont dans la communauté. C'est déjà une sorte d'intégration. Pour les réfugiés qui viennent de la Mauritanie et qui sont là depuis 30 ans, le gouvernement accompagne pour ceux qui veulent rester définitivement au Mali, et il y en a près de 50% de cette population de 15 000, donc 7 500 à peu près, ont exprimé le désir de ne plus rentrer en Mauritanie, mais de rester ici au Mali. Et je crois qu'avec le gouvernement, on travaille sur ce qu'on appelle l'intégration locale. Voilà, c'est une forme de solution durable parmi les trois que nous avons